Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Donc, oui, c'est Genesis ce soir, d'où ton beau veston puis ta présence en studio.
Exactement.
Chanceux, tu vas voir M. Phil Collins chanter assis.
Ah oui.
Il me semble que ça va mal chanter assis.
Je pense qu'il garde toute son énergie pour la voix.
OK, parfait. Parlons d'une autre vedette, ancienne vedette en fait, Kevin Spacey, qui va devoir payer une facture, ma foi, salée, parce que quand le scandale d'inconduite sexuelle l'a fait chuter de son piédestal, il est en tournage pour la série House of Cards et tout ça a coûté bien de l'argent au producteur.
Son château de cartes s'est effondré, tu comprends? Alors, il va payer 29,5 millions de dollars plus les frais d'avocat, 1,4 million. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le lien de causalité, c'est-à-dire que en comptabilité, puis en jury-comptabilité, puis dans les procès ou dans les poursuites, autant au niveau des dommages pour feu, dommages pour atteinte à la réputation, dommages pour une grève illégale d'un syndicat, il y a une évaluation de ça. Et là, première des choses, c'est qu'il faut démontrer qu'il y a eu dommage. Parce que lui, il aurait pu dire, écoutez, vous n'avez pas eu de dommage, vous avez continué la série quand même. La production dit oui, mais on a eu à avoir des dommages de engager tout le monde une deuxième fois pour les épisodes.
Réécrire les scénarios.
Écrire les scénarios. Moi, je suis de son côté, je suis le comptable. Je dis, OK, mais quel temps vous avez pris, quel budget vous avez pris pour réécrire les nouveaux épisodes? Est-ce que c'est plus que les épisodes passés? Donc, on peut jouer avec l'évaluation. On peut aussi aller dire, vous n'avez pas eu de perte de revenus du diffuseur, vous avez eu les revenus quand même, mais vous avez eu un risque de boycott, on est d'accord. Maintenant, une fois que tu as quantifié, que tu as évalué les dommages, il faut que tu démontres qu'il y a un lien de cause à effet. Ici, c'est facile, mais on peut aussi démontrer que tu as minimisé tes pertes. C'est-à-dire qu'est-ce que la production de House of Cards a minimisé les pertes une fois que le problème est arrivé? Alors là, il faut démontrer qu'on a coupé des coûts de production au maximum, qu'on a écrit pas trop, qu'on n'a pas overshooté en anglais, c'est-à-dire trop tourné pour faire les autres épisodes, qu'on n'a pas surpayé les gens par après. Dans le fond, il faut démontrer que la facture est raisonnable. Mais tout ça me fait penser à tous les contrats professionnels de personnalité publique maintenant, de dire si jamais tu as dans ta vie personnelle que tu poses un acte répréhensible, à quel point tu es responsable et à quel point tu t'exposes à des poursuites. Et maintenant, ça fait partie des contrats, grâce à M. Spacey, grâce à tout le monde qui a eu des démêlés avec les mœurs ou la justice, ça fait maintenant partie du risque d'être une personnalité publique et on t'en fait payer le prix si jamais tu chutes ou tu trébuches sur le deux de pique ou la dame de cœur.
Ça montre aussi qu'il y a beaucoup d'argent en télévision américaine.
Oui, puis j'avais vu une juge aussi, il y a quelques années, qui avait négocié plusieurs dizaines de millions de dollars pour être la juge à la cour, simplement d'être là, en onde, devant public. Et eux, c'est fou parce que dans le fond...
Oui, une juge Judy ou quelque chose comme ça, là, je ne m'en rappelle pas laquelle, mais oui, c'était faramineux.
C'était plusieurs dizaines de millions de dollars. Et la question est, tu vois la différence de marché. Au Québec, c'est un peu la même affaire, la différence de revenus est vraiment une fraction.
Parle-nous des régimes de retraite à prestations déterminées.
C'est parce que ça a l'air pas excitant comme ça, mais en fin de semaine, une manifestation pour dire, écoutez, là, on est des gens qui ont perdu une partie de notre régime de retraite à cause de la faillite d'une entreprise. Il y a White Birch, il y a Groupe Capital Media et autres. La question est peut-être de se dire, c'est quoi les solutions possibles? Là, on met en place possiblement une assurance, de dire, hey, on devrait assurer ça, les régimes de retraite. Mais si tu fais ça, tu es en train de dire que tu assures l'avenir de l'employeur, dans le fond. Alors, ceux qui ont des employeurs qui sont solides, qui travaillent pour des employeurs solides, devraient-ils payer l'assurance pour ceux qui n'ont pas d'employeurs solides?
OK, ça ressemblerait, j'imagine. Là, je sais qu'il y a un fonds d'indemnisation pour les gens qui achètent des voyages, par exemple. Mmh. Donc, si tu donnes de l'argent, tu achètes un billet d'avion, tu achètes un voyage dans le sud, si la compagnie fait faillite, ben tu vas être indemnisé. C'est un peu le même modèle, j'imagine.
Oui, mais la différence, c'est que là, tu disais, attends une minute, là, quand tu entres dans une entreprise, tu prends un risque d'affaires, hein, tu prends un risque de régime de retraite. Si le régime de retraite n'est pas suffisamment capitalisé, tu dois, comme employé, groupe d'employés, faire pression pour que l'employeur mette plus d'argent s'il y a un déficit actuariel. Maintenant, est-ce que tout le monde qui a un régime à prestations déterminées devrait payer éventuellement implicitement l'assurance pour couvrir un risque de déficit actuariel? C'est une bonne question, mais la réalité, c'est peut-être de se dire on s'en va peut-être vers des régimes plus prestations cibles, c'est-à-dire un peu comme vous l'avez vécu à la presse, c'est-à-dire on va s'orienter éventuellement vers un régime qui va viser une retraite de X% de notre revenu, mais on va contribuer à hauteur de ce que ça prend chaque année pour y arriver. Et donc,
Mais la solution, parce qu'il y a quand même, quelque chose de socialement, là, disons...
perturbant.
Perturbant, c'est confrontant. T'as des retraités qui ont contribué, bang, le fonds n'est plus solvable.
Perdre 20-30% de leur retraite.
Et des fois plus. Y a-t-il un mécanisme qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de souffrance comme ça? Je pose la question.
Bien, il y a une évaluation actuarielle qui se fait pour que l'employeur modifie sa cotisation. Le problème, c'est quand il y a un déficit qui est créé passé, tu viens avec. La question, c'est de dire, il y en a qui disent, hey, les salariés devraient être les premiers créanciers. C'est-à-dire que si l'entreprise se fait faillite, passe avant tout le monde. Vrai? Ce serait intéressant parce que ce sont effectivement des créanciers du régime de retraite. La question est, si on fait ça, il y a quand même un côté obscur. C'est-à-dire que toute entreprise qui a un régime de retraite à prestation déterminée, qui ne serait pas capitalisée et qui aurait beaucoup d'endettement du régime implicite, ça ferait en sorte que tous les prêteurs diraient « Oh, il y a un plus grand risque parce que les salariés sont tributaires, sont les premiers bénéficiaires si jamais il y a un problème. Et donc, on va augmenter le coût qu'on charge pour vous financer. » Il n'y a rien de gratuit, c'est difficile. Puis l'autre point des régimes de retraite à prestation déterminée, c'est peut-être bien, on est dans un monde où tout le monde est travailleur beaucoup plus volatile, qui se bouge plus. Donc,
on reste moins dans la même compagnie toute notre vie.
Est-ce que peut-être qu'on aime mieux avoir une meilleure paye puis un meilleur régime à cotisation déterminée, mais pouvoir le quitter quand on veut au lieu d'avoir ces chaînes-là? Ça dépend quel type d'employé tu es.
Anyway, Pierre-Yves, le futur, c'est les crypto-monnaies, tu le sais.
C'est vrai que c'est décourageant des fois de voir... Mais Patrick... Tu sais, il y a des gens qui gagnent beaucoup, il y a des gens qui perdent beaucoup aussi. C'est comme à la roulette.
Je te taquine, tu sais, c'est pas un commentaire sur les crypto-monnaies. Peut-être que c'est une partie de l'avenir de la finance internationale.
C'est une partie,
c'est peut-être, oui. Moi, ce qui m'horripile, c'est... T'écoutes les adeptes des crypto-monnaies, là, t'as l'impression de parler avec les plus religieux d'une religion.
Bien, moi, c'est plus que dans le moment, il y a une envie de captation de valeur rapide. Tout le monde veut faire du cash très rapidement. Il y en a qui s'en sortent. Puis, ça devient une valeur commune. Depuis 2 ans, il y a tellement de rendements boursiers, tellement de rendements sur les cryptos, tellement de rendements avec l'immobilier, que ça a l'air facile. Puis, ce qu'on ne dit pas, c'est quand tu spécules, là, tu captes de la valeur. Tu n'apportes rien à la société quand ta vie, c'est d'investir en spéculateur. Et donc, quand je vois des gens assis derrière leur ordinateur de dire « Je fais fortune en spéculant, bravo », mais d'un point de vue moral... Tu captes la valeur des autres, tu captes la valeur des travailleurs, tu captes la valeur des prêteurs, tu captes la valeur de tout le monde, in and out. T'es un gars de party qui ramasse la bouffe gratis, qui s'en va. Au bout du compte, comme société, si tout le monde cherche ça, ça ne fonctionne pas parce que le rendement rapide ne fonctionne pas.
Ce que tu dis, c'est que la crypto-monnaie, pour l'instant, c'est beaucoup juste de la spéculation.
Bien, pour l'instant, c'est parce que c'est off-demande puis ça monte extrêmement vite, comme plein d'actions cotées en bourse, comme certains secteurs immobiliers. Mais c'est sûr qu'on voudrait tous être le capteur de valeur
même. Eh oui, on veut tous être ça. On voudrait tous être au show de Genesis ce soir. Ta chanson préférée, c'est quoi?
Ah, moi, je sais pas. Je pense que c'est Jesus, He Knows Me, justement, parce que c'est religieux.
Moi, j'aime mieux Invisible Touch.
Ah, mais t'es plus vieux.
Bon spectacle, Pierre-Yves. On se retrouve demain. Ah, ça, c'est Jesus, He Knows Me. Si on a besoin d'un guitariste d'urgence, tu montes sur le stage?
Pour donner l'eau.
Merci, puis on se retrouve demain, 17h36.